En France, la Cour d'appel de Paris a une nouvelle fois confirmé l'arrêté d'expulsion de Jeff Babatunde. Ce jeune Nigérien de 19 ans qui vit depuis 2 ans en France pourrait être reconduit à la frontière. Placé en centre de rétention à Vincennes, le lycéen compte désormais sur l'aide d'Arnaud Klarsfeld. C'est le médiateur dans le dossier des familles sans papiers et il estime que le jeune homme devrait être autorisé à rester en France. L'autoroute A26 devrait rester fermée jusqu'en milieu d'après-midi. Elle est fermée à hauteur de Banteux, près de Cambrai, dans le Nord. Des vapeurs de benzène très inflammables continuent de se dégager d'un camion-citerne. Le 100 mètres, l'épreuve reine de l'athlétisme, semble sourire aux Français. À Göteborg, en Suède, c'est la deuxième journée des championnats d'Europe. 2 Françaises se sont qualifiées pour les demi-finales du 100 mètres, Sylviane Félix et Véronique Mang. Et chez les hommes, Ronald Pognon est l'un des favoris pour la médaille d'or. Il va participer aux demi-finales cet après-midi. Qui sera le gardien de but des Bleus pour la prochaine saison? Fabien Barthez et Grégory Coupé en ont tous les deux envie. Ils s'affrontent par interview interposée où ils se disent tous les deux disponibles pour l'équipe de France. Raymond Domenech devra faire un choix d'ici septembre et les qualifications à l'Euro 2008. Et on part maintenant à la Bourse de Paris où on retrouve Cédric Decoeur. Alors Cédric, le CAC 40 est en légère hausse.
Oui, Céline, prudence en fait était mère de sûreté, pourrait-on dire aujourd'hui en Bourse. En effet, en attendant le verdict de la Réserve fédérale des États-Unis sur ce taux, une décision qui tombera ce soir à 20h15, eh bien, les investisseurs restent sur leur garde. Du coup, le marché parisien qui bénéficiait ce matin d'achats à bon compte après la Nesbet baisse accusée hier soir, le marché parisien donc marque le pas et le CAC 40 progresse de 0,29% maintenant à 4970 points dans un volume d'affaires d'1,6 milliard d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, les places sont toutes dans le vert. Francfort gagne actuellement 0,66%, Londres plus 0,22% et l'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro, progresse de 0,36%. Enfin, terminons par un coup d'œil sur le marché des changes où la proximité de la Fed pèse aussi et la parité entre le billet vert et la monnaie unique reste stable. L'euro se négocie actuellement contre 1,2839 en tout petit repli de 0,09% face à la devise américaine. Voilà Céline, je vous rappelle le CAC 40 qui gagne 0,29% à 4970 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
France Inter, il est 14h04 et c'est l'heure de retrouver l'Afrique enchantée avec Solo Soro et Vladimir Cagnolari.
Merci Céline Aslo et à tout à l'heure bien sûr pour des nouvelles. Nous, on a fait nos bagages, on s'apprête à monter dans un minibus chargé jusqu'à la gueule pour descendre vers le sud.
Voilà, d'Argelès, on passe la frontière. Des Pyrénées, on trace direct à Madrid. L'Espagne, on va bringuer mes chiros. Ah ça, je m'engage à bringuer chiros en Espagne. Après, on descend au Maroc, on prend le bateau. Il paraît qu'il y a une demi-heure de bateau pour Tanger avec les voitures, le bordel et tout. On va crécher dans une montagne avec maman, comment elle s'appelle ?
Hassan.
Maman Hassan. Ouais, 15 jours, avec les chèvres. Du Maroc, on va jusqu'au Mali, Mauritanie. Après, il y a le Mali. Je crois que du Mali, on va direct au Togo. Ou peut-être même on passe par le Sénégal. C'est encore pas sûr, mais peut-être on passe par le Sénégal. Après, il y a la Côte d'Ivoire. J'en ai sauté là, combien?
Coco! Hey, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée.
Oh yeah!
Vladimir Cagnolari, Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Aujourd'hui, on vous embarque encore avec nous sur les routes, les mers, les fleuves du continent africain pour un périple musical qui nous mènera à la rencontre des enfants d'Afrique. On a déjà parlé d'eux en évoquant l'école, mais aussi les mamans, ça c'était hier. Mais aujourd'hui, l'émission leur est entièrement consacrée avec une question qui va pas mal nous occuper, c'est le changement du statut de l'enfant au cours de ces dernières décennies. Alors comme nous-mêmes, nous sommes encore de grands enfants, on va tout de même essayer d'injecter une bonne dose d'insouciance dans l'accumulation des problèmes qui se posent aux enfants d'Afrique. Et pour nous accompagner dans ce voyage sur les terres de l'enfance, j'ai le plaisir d'être assis en face de mon camarade de jeu favori qui cultive l'optimisme comme un arbre dont on lui aurait personnellement légué la charge au moment de sa naissance. Il a aussi été pépiniériste de jeunes talents dans son pays, la Côte d'Ivoire. J'ai nommé Monsieur Soro Solo, la main verte. Bonjour Solo.
Bonjour Vlad.
Ça va?
On fait aller.
Alors Solo, pour se mettre en appétit, on garde tous dans une petite boîte rangée au fond de nos têtes des souvenirs d'enfance qui sont un peu comme des bijoux de famille, au sens premier du terme. Et toi, tu as quoi dans ta boîte de souvenirs d'enfance?
Oh là là, les mangues de ma grand-mère. En fait, de là d'où je viens, dans la savane du nord de la Côte d'Ivoire, la saison des mangues, elle dure de mai à février, mars, avril, tout au plus. Et moi, je n'arrivais au village que pendant les grandes vacances scolaires, c'est-à-dire en juillet. Et ma grand-mère, pour me faire déguster les mangues du village, la cour familiale, elle conservait dans la cendre de bois des quelques fruits qu'elle avait bien choisis. Et quand j'arrivais au village, il n'y avait plus de mangue nulle part. Elle rentrait de derrière les fagots, me sortait ses mangues. Oh, sucrées, on dirait du miel, papa. C'était trop bon.
Oui, ça avait l'air. En tout cas, c'est pas comme les gamins d'aujourd'hui qui ont des frigos. Est-ce que eux, ils connaissent le goût de cette mangue même?
C'est clair qu'ils ne connaissent pas le goût de ces mangues sucrées. Et puis, de toute façon, dans nos villages, il n'y a pas d'électricité pour garder les mangues au réfrigérateur. C'est dans les cendres qu'on les garde. Et ces enfants-là, ça connaît plus rien aujourd'hui.
Voilà, c'est exactement ça. Je voulais que tu joues un peu les anciens combattants pour qu'on commence cette émission.
Et j'ai réussi. Toujours à me dévoiler, à me démasquer.
L'Afrique enchantée? C'est quoi même?
Mais oui, c'est quoi?
C'est l'Afrique qui se raconte à travers ses chansons.
J'ai la tête blanche, le cheveu blanche, le barbe blanche, moi je ne provoque pas les gens. Si tu vois que tu fais ça, c'est que les deux maisons ne sont pas séparées. D'ailleurs, demain je vais appeler mon sang pour travailler chez les deux maisons. D'ailleurs, je n'appelle tes raisonnés. Moi-même, je suis maçon, je suis crodonné, tichéran, brangéran, mélige. Moi, je fais tout pour moi-même. Moi, je suis là il y a des années. Le matin, je pars à mon champ. Le soir, je reviens. Je me lève proprement, je pars. Et moi, c'est que je ne provoque pas les gens. Moi, je suis là il y a des années. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Même plus de 10 ans, moi je suis là, je ne provoque pas les jeunes. Accrochant, brachat, chéchat, mal la pris, petit n'imprudent provocateur. Ni un chien combattant et d'un niveau. A des doigts gros qui brûlent, sonny, sonny, va poto et dimente, c'est 4 mois pour l'offre de feu. Moi j'ai fait le guéri mon yuma. Moi j'ai fait le guéri mon yuma. J'ai tué la maman. J'ai tué Tarancin. J'ai tué Tchekasolawani. Moi j'ai tué Hollande. D'ailleurs, si tu ne fais pas le temps chaud de moi, je vais tuer toute ta famille. Tu ne sais pas que dans le guéri mon yuma, une balle a entré à mon front et sorti mon ton. Cela provoque moi, je suis Jeffrey. Vraiment, si je m'assois et pense à l'affaire, ça ne compte pas mon golo. Même si tu n'as pas de honte dans ton yeux, envers moi, tu dois me régimenter. Tu sais que moi, je suis fils. Je suis fils. Tu
sais que moi je suis ici. Tous mes fils sont plus âgés que toi. Je vais prier, la prier, gabouiller, se voyer, car je veux.
Li.
Ko, a, ta, bo, a, ba, ko, a, ka. On est en classe. Oui, ça va très bien. Non, non, je ne fais que répéter la leçon en classe, quoi. Bref, c'était Petit Imprudent par le chanteur instituteur Idrissa Soumaoro sur France Inter. Et cette chanson du Malien Idrissa Soumaoro, c'est vraiment l'illustration de l'irrespect que les enfants d'aujourd'hui ont vis-à-vis des anciens. Et il raconte l'histoire d'un gamin qui voulait punir sa petite sœur. Traditionnellement au village, que ce soit un père, une mère ou un aîné qui veut corriger un enfant, si cet enfant fuit se réfugier dans les boubous, dans les pailles d'un ancien, on stoppe net, on le touche pas. Et voilà un gamin, un petit imprudent, qui veut corriger sa petite sœur et qui la pourchasse, la gamine va se réfugier dans les jambes du vieux de la cour voisine qui se trouve être un ancien combattant.
Donc déjà qu'il est ancien, si en plus il est ancien combattant, non, c'est ça, double respect. Quoi.
Le double respect. Et le gamin imprudent qui n'a aucune notion des valeurs traditionnelles, il va battre la gamine sur les pieds de l'ancien combattant. L'ancien combattant s'énerve. Toi, petit imprudent provocateur, toi, tu ne sais pas que moi, je suis oué. Toi, petit imprudent provocateur, tu ne sais pas que je suis oué. Moi, j'ai fait la guerre mondiale. J'ai fait la guerre mondiale. J'ai tué Allemand. J'ai tué Tchécoslovaquie. Moi, j'ai tué le Blanc. Et le bal est rentré dans mon front et le sorti mon ton. J'ai tué Allemand, Tchécoslovaque, Blanc. Il y a même une balle qui est rentrée dans mon front et qui est sortie dans mon ton. Mon ton, c'est la nuque. Donc, ça veut dire qu'il est puissant. Il est ancien combattant. Il est ancien. Il est brave. Il a fait la guerre mondiale. Il a une balle à traverser sa tête. Tout ça, il est trop fort. Et il vient provoquer l'enfant. Toi, petit imprudent provocateur. D'ailleurs, même, c'est parce que notre maison, c'est pas séparementée. C'est parce qu'il n'y a pas de mur qui sépare nos deux cours. C'est pour ça que j'ai venu, tu as traversé. Et tu as frappé le gamin, la gamine dans, comment on l'appelle, dans ma cour.
En tout cas, tu dis avec tellement de conviction qu'on a l'impression que toi-même, tu étais ancien combattant.
Et cette chanson Petit Imprudent, le Congolais Zao l'a reprise dans les années 80, alors que cette chanson, Idrissa l'a enregistrée exactement en 1969 et elle a été piratée et diffusée en 1970. Et c'est plus tard dans les années 80 que Zao le Congolais a repris cette chanson sous le titre Ancien combattant et avec laquelle il a été célèbre partout en Afrique occidentale.
Solo, ancien combattant dans la version de Zao, on aura l'occasion de l'écouter un peu plus tard quand on va évoquer le problème de la guerre sur le continent. En tout cas, toi, tu fais partie d'une génération d'enfants qui a grandi à la ville, hein, tu le disais, et tu retournais éventuellement au village pour les vacances, mais vous n'avez plus grand-chose à voir avec ceux qui ont grandi ou qui grandissent toujours aujourd'hui au village.
Ah non, c'est clair que...
Des enfants différents.
Nous, à la ville, la différence entre nous, c'est déjà le décalage... Le décalage entre nous et nos cousins du village, c'est que eux, aller au village, même s'ils sont écoliers, ils ont les jeudis ou les jours de repos, les travaux champêtres. Ils ont la garde des bœufs. Et puis, ils sont aussi très à l'aise avec la nature. Ils se débrouillent bien, ils savent poser des pièges, ils savent comment éviter les ronces, etc. Alors que nous, en ville, les jours de repos, on a les loisirs distractifs, on a le sport, on a le cinéma, on a même le scoutisme, et on a des colonies de vacances pendant les grandes vacances. Et puis, on bénéficie aussi de la protection sanitaire. C'est-à-dire que on venait dans les écoles de la ville pour vacciner les gamins contre la variole, contre la varicelle, contre la polio, alors qu'au village, ils ne bénéficiaient pas de tout ça. C'est ce qui m'apparaît comme la différence entre le gamin de la ville et le gamin du monde rural, même si tous les deux vont à l'école.
Et une donnée fondamentale aussi pour la génération qui est venue après toi, qui est celle qui est née au tournant des années 80, c'est que ça a été la fille de la crise économique. On a même parlé, pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour d'autres pays, de génération sacrifiée.
Ah oui, c'est, cette génération est présentée comme une génération sacrifiée parce qu'elle n'a plus bénéficié de tous les avantages de l'État, c'est-à-dire des bourses scolaires, des soins sanitaires gratuits, parce que l'école s'est dégradée, mais pas seulement la dégradation de l'école seulement, les conditions de vie en général font que toutes les familles courent après l'argent en ville et dans le pays en général. Les deux parents qui n'ont plus guère de temps pour s'occuper des enfants et qui ne bénéficient plus du soutien de l'État pour la scolarisation de leurs enfants, les deux parents courent après l'argent. La maman va faire vendre des fruits et légumes, le papa il va travailler à l'usine, enfin. Et les enfants eux-mêmes se retrouvent bien plus livrés à eux-mêmes qu'autrefois. De ce fait, tous les besoins des enfants qui ne peuvent plus être satisfaits par les parents, ces enfants sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes en faisant des petits métiers, genre travail de manutentionnaire dans l'usine la plus proche pour les adolescents, ou petit boy dans les quartiers luxueux où habitent les coopérants français en particulier, ou fabriquer des petits outils, ce qu'on appelait l'art de la récupération, fabriquer des objets usuels ou des objets de décoration.
Tout ce qui est débrouille, mais au point que c'est pas seulement pour se faire de l'argent de poche, c'est que beaucoup, les parents n'ayant plus forcément les moyens de les scolariser, puisque eux-mêmes en plus courent après l'argent qui est toujours insuffisant pour boucler les fins de mois, très souvent il y a pas mal d'enfants qui, y compris en ville, arrêtent leurs études tôt et finissent par travailler de débrouillement, comme on dit, de petits métiers, quoi.
Ils sont tenus de travailler très tôt, on a employé un terme dans nos pays qu'on appelait les déchets scolaires. Du fait de la crise économique et du fait donc du retrait progressif de l'État dans le financement des études des gamins, et à chaque niveau scolaire, à chaque grande étape entre l'école primaire et le collège, il y a un gros volume qui est rejeté dans la rue. Entre le collège et le lycée, pareil. Entre le lycée et l'université, pareil. Et donc toute cette masse de gamins, de jeunes, est tenue de se réinventer son quotidien par de petits métiers, par même la création d'un art ou par une activité professionnelle obligée pour s'en sortir, pour survivre.
Et puis à la crise économique dont on parlait, pour pas mal de pays du continent, il faut aussi ajouter des situations de conflit qui, comme très souvent en Afrique, sont bien plus des guerres civiles que des guerres entre États, même s'il y a toujours des États autour pour soutenir l'un ou l'autre camp. Et ça a été le cas, par exemple, au Congo-Brazzaville, qui est le plus petit des deux Congos, si vous regardez votre carte, en Afrique centrale. Et au Congo-Brazzaville, justement, à plusieurs reprises, en 93, 94, 97, 98, et puis encore en 2000, 2003, il y a eu des conflits. Et c'est justement dans ce pays que vit Casimir Zoba, alias Zao, dont on parlait tout à l'heure. Et vous allez l'entendre, l'accumulation des crises a fait de lui un papa complètement dépassé. Et à vrai dire, on le saurait à moins.
Les enfants, c'est des enfants sacrifiés, je pourrais dire. Parce qu'avec toutes ces guerres à répétition, et les enfants, ils ont vraiment du mal à suivre. Hein. C'est vraiment des... C'est pas des têtes qu'on a formées, hein, mais c'est des... C'est des bagarreurs, c'est des guerriers, c'est de tout ça. C'est des drogués, c'est des... C'est vraiment très grave, quoi. Je sais pas, mais... Les jours à venir nous le diront. Mais c'est un peu dur, c'est très difficile à rattraper, cette période-là. Parce que vraiment, tu fais ces troubles sociaux, nous, on désaxe vraiment les enfants. Enfin, nous, peut-être on a eu la chance de faire la bonne école, la belle époque. C'est vrai. Ça, je pense que les parents, c'est vrai. Mon père me donnait en ce temps-là 25 francs. 25 francs, je sais pas, tu comprends toi-même.
Donc il me dit... 25 centimes voilà, de nos francs d'avant.
Voilà, il me dit, tu utilises 15 francs et tu viens me remettre 10 francs. Et moi, j'utilise aussi les 15 francs en bon escient. Et je vais remettre à mon père les 10 francs parce qu'on était vraiment très bien éduqués. Très, très bien éduqués.
Alors, qu'est-ce qui a changé?
Ah, qu'est-ce qui a changé? C'est la pollution, c'est l'air, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé. Hein.
Qu'est-ce qui a fait que les enfants ont changé?
Mais c'est la drogue, c'est tout ça, c'est les guerres, la crise économique, tout ça là. Où nous, en Afrique, il faut toujours un soutien. Et on fait donc une destruction rationnelle. Moi, Zao, je peux nourrir toute la famille, mes oncles, mes neveux, mes nièces, mes enfants, donc la famille, et un chapelet, tout un chapelet. Tu vois, donc si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'encadrer, tu n'as pas un parent qui a des moyens, qui peut t'encadrer, et tu te perds dans la rue. Hein. Ou si tu as un parent qui te soutenait, qui meurt, tu es foutu.
Maman t'avait dit, t'as pas écouté. Papa t'avait dit, t'as pas respecté. Yaya t'avait dit, t'as pas médité. Mon enfant, pourquoi t'as fait comme ça? T'as suivi le chemin des éléphants. Les éléphants n'ont pas de cimetière. Ils ont des pieds qui écrasent la terre. C'est leur dent et leur chair qui coûte cher. La vie, mon enfant, c'est un combat. Dans la vie, il faut savoir combattre. La vie est l'engolo, la vie est l'engolo.
Chez nous, on dit toujours, lorsque tu veux parler de quelqu'un, parle d'abord de toi-même. Moi, je ne parle pas de ce qui est en dehors. Parce que moi-même, j'ai des enfants et j'ai un enfant qui fait aussi de la musique, mais qui est tombé dans la drogue. Lui, il pensait que moi, parce que j'écarquais les yeux, il pensait que moi, je prenais de la drogue. Alors que de nature, moi, je suis courageux. Je prends peut-être un peu de vin, c'est tout. Mais je n'ai jamais touché au chanvre. Je ne fume même pas. Mais lui, il croyait que, hein, comme je fais tellement des grimaces à la télé et tout ça, là, il pensait que, oh non. Donc voilà pourquoi je dis qu'il a suivi le chemin des éléphants. Pourquoi? Il est parti en fumée. Il est tenté de partir en fumée. Alors c'est pas comme ça.
Suivre le chemin des éléphants, qu'est-ce que ça signifie?
Ou tu sais, les éléphants, il y a deux chemins. Si tu vois le chemin des éléphants, ça se fait vite savoir. Parce que c'est tellement vaste. Et ils déposent toujours les matières fécales. Tu ne vas pas emprunter ce chemin-là. Hein? Il faut suivre le chemin des hommes. Voilà tout ce que je voulais dire. Parce que lui, il fume, il prend de la drogue. Je l'amène chaque fois. 5 fois, je l'ai amené au cabanon.
Au cabanon?
Oui.
Qu'est-ce que c'est le cabanon?
À l'asile. Pour se désintoxiquer. Donc, ça c'est la 5e fois. Et quand il tombe en crise, et le médecin lui dit, mais laisse le chanvre. Ça ne va t'amener à rien. Ça va te brûler le cerveau. Et tu seras une pourriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que, mon enfant, pourquoi t'as fait comme ça? Hein?
Maman t'avait dit, t'as pas écouté. Papa t'avait dit, t'as pas respecté. Yaya t'avait dit, t'as pas médité. Mon enfant, pourquoi t'as fait comme ça? T'as suivi le chemin des éléphants. Les éléphants n'ont pas de cimetière. Ils ont des pieds qui écrasent la terre. C'est leur dent et leur chair qui coûte cher. La vie, mon enfant, c'est un combat. Dans la vie, il faut savoir combattre. Maman t'avait dit, t'as pas écouté. Pépé t'avait dit, t'as pas médité. Mémé t'avait dit, t'as pas respecté. Mon enfant, pourquoi t'as fait comme ça? Je suis parti pour toi en fumée. La vie, mon enfant, c'est un jeu. Dans la vie, il faut savoir jouer. T'as suivi le chemin des éléphants. Les éléphants n'ont pas de cimetière.
Ils ont des oreillers qui dépassent la tête. C'est leur dent et leur chair qui coûte cher. La vie, mon enfant, c'est un combat. Dans la vie, il faut savoir comprendre. La vie est l'engolo, la vie est l'engolo.
Oui, c'est Zao. Vous m'avez bien reconnu. C'est moi qui n'ai jamais cadavéré, parfois cadavéré, mais je suis dans l'Afrique enchantée.
Zao, jamais cadavéré. Mon enfant, c'est donc du Congolais, Zao, et sur France Inter.
Solo, Zao en parlait il y a un instant. Avec toutes ces difficultés, il y a de plus en plus d'enfants qui se retrouvent soit pour travailler, ou soit simplement parce qu'ils sont rejetés, ou qui quittent le domicile familial, ils se retrouvent dans la rue. Et la rue, du coup, comme lieu de vie de toute cette enfance et toute cette jeunesse-là, a pris une place énorme, et ça a donné même naissance à une culture de la rue.
Ah ouais, en tout cas pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il est, à l'évidence, il est apparu une culture de la rue qui se manifeste à travers d'abord le langage. Il y a déjà quelques semaines, nous avons évoqué le fameux langage fabriqué, inventé dans la rue en Côte d'Ivoire et qu'on appelle le nouchi. Et ce langage est devenu tellement populaire alors que à ses débuts c'est le langage des marginalisés, des brigands, des voyous, des indésirables. Et aujourd'hui c'est devenu tellement populaire que même on surprend des toutes les couches sociales utilisaient des mots de ce langage nouchi, y compris même des hommes politiques dans des meetings, oui, qui sont obligés par d'utiliser des mots nouchi. Bon, bien sûr, il y a le côté racoleur, mais c'est parce que c'est évocateur, c'est chargé d'images, c'est plus expressif et ça leur permet de mieux traduire l'imaginaire des populations. Et je pense que ce langage est devenu populaire en Côte d'Ivoire et est en train de s'ouvrir sur tous les autres pays d'Afrique occidentale parce qu'il a l'avantage de ne pas être la langue d'une ethnie. Mmh. Elle n'appartient à aucun groupe ethnique. Et toutes les ethnies de nos différents pays se retrouvent dans ce langage commun finalement, qui est leur patrimoine, qui se rapproprie tous. Par exemple, si je dis, tout à l'heure, je suis rentré dans la cabine technique de notre studio, et mais les gars, il y avait un Nyara bâtard. Mais quand j'ai vu façon, c'était Gwangwan là. Ah moi, j'ai failli. Hein.
Bon,
je suis rentré dans la cabine technique, mais il y avait une baston incroyable. Et moi, quand j'ai vu que ça risquait d'être dangereux pour moi, je me suis sauvé. J'ai fraya. Je me suis sauvé. Mmh. Il y avait un nyara. En fait, le nyara, le mot, c'est l'énonomatopée, c'est nyara, 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 nyara. Tout ce qui remue, secoue vigoureusement, c'est un nyara. Alors, donc là où il y a la bataille, il y a le nyara. Bref, pour conclure, le langage de, qui est issu de la rue, on assiste aussi à cet artisanat qu'on a présenté ici comme l'artisanat de récupération. Mmh. Mais en fait, ce sont les gamins de rue pour pouvoir avoir de petits sous. Ils ont commencé à récupérer les boîtes de conserve, le fil de fer barbelé pour fabriquer des jouets pour, comme les voitures, comme les poupées, ou comme des tables, ou comme des cendriers. Et puis, les Occidentaux ont été émerveillés par cette ingéniosité. Mmh. Et ont commencé à racheter pour comme souvenir exotique, quoi. Et du coup, ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui, l'art de récupération est devenu un art exportable partout dans le monde.
On voit même parfois dans des galeries, ici, alors qu'il n'est pas forcément fait par des gamins des rues, oui, mais en tout cas qui s'inspirent.
Qui se sont inspirés, mais la base, le socle, la racine, c'est vraiment les gamins de rue. Et là, je t'assure, je raconte pas n'importe quoi, hein. Tu peux le répéter à nos auditeurs. Il y a donc le langage, il y a l'art en général, l'artisanat aussi, et puis les arts plastiques. Certains de nos auditeurs, vous avez certainement remarqué dans des galeries, ces panneaux sur lesquels on a dessiné des têtes avec des coupes de coiffure. Mm-hmm. En fait, ce sont des modèles que le coiffeur local dans son quartier populaire, il affichait sur son salon qui est fait de briques et de brocs, de toiles ondulées, de carton, pour dire voilà,
moi j'ai la coupe style américain, voilà, style afro, je sais pas quoi.
Exact. Tu veux une coupe afro, il te dessine un personnage, une tête avec un afro. Une coupe américaine, c'est un modèle. La coupe Schwarzenegger, celle-là existe.
La coupe
Rambo, elle existe. Et ce sont les gamins de rue qui dessinaient ces panneaux, ces enseignes en quelque sorte, qui donnaient, qui le revendaient aux coiffeurs, aux tailleurs, aux restaurateurs, etc. Et on a, une fois de plus,
On a vu les blancs qui s'émerveillaient devant cet art-là. Et c'est devenu dit un art populaire.
Et maintenant, on retrouve effectivement.
On retrouve ça dans les galeries très, très, très chères. Et tout ça est vraiment né de la culture de la rue.
Et justement, Solo, parce que tu parlais du Nouchi à Abidjan, hein, puisque toi, tu as beaucoup vécu là-bas et tu connais ce coin. Mais c'est vrai que ce langage de la rue, on le retrouve aussi dans d'autres grandes capitales d'Afrique, hein, que ce soit à Johannesburg, avec le Tzotzital, qui est la langue des quartiers, des ghettos. On le retrouve aussi même à Kinshasa, puisque c'est la rue qui est le principal promoteur des nouvelles expressions, et en particulier les gamins des rues. Donc c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans différents endroits du continent, qui n'est pas spécifique à Abidjan. Et puis la rue, bien sûr, avec tous ces dangers aussi, parce qu'on n'en parle pas à l'instant, il y a sa culture, mais elle est pétrie de cette peur, parce qu'il y a beaucoup de dangers.
Oui, si on m'écoute dans mon premier développement, on croirait que j'ai fait l'apologie de la rue, mais c'est ça, pas c'est ça, mais c'est une réalité. Mais il y a aussi les dangers imminents de la rue. C'est dans la rue que se développe le marché de la drogue, puisque ce sont déjà des personnes victimisées, en guillemets, par la société, qui sont fragilisées, qui ont besoin de rêves artificiels. C'est là où aussi les trafiquants de drogue retrouvent la meilleure clientèle. Et dans cette rue, c'est la loi de la jungle. Chacun a un territoire qu'il veut défendre. Donc il y a une extrême violence aussi dans cette rue. Donc on peut pas occulter la violence, la drogue et même les meurtres permanents qu'on retrouve dans la rue.
Et les dangers de la rue, c'est à peu près les mêmes dans toutes les grandes villes d'Afrique et peut-être même du tiers-monde. Alors justement, on va
aller... Ou du monde en général.
Ou du monde en général, parce que tu as raison que moi, très souvent, pour pas effrayer ceux qui nous écoutent, moi, il m'arrive assez fréquemment, dans une grande ville africaine, de me sentir finalement plus en sécurité que dans une capitale occidentale. Enfin, en tout cas, on va aller faire un petit tour à Douala.
Tu permets, je vais apporter de l'eau à ton moulin.
Non, non, parce que... Il y avait quelque chose qui pointait au bord de tes lèvres.
Je crois que dans toutes les villes du monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident, en Amérique, c'est la façon dont on se comporte dans la rue. Le proverbe dit chez moi, si tu montes, si un chien voit que tu as peur, c'est là qu'il t'attaque. Mm-hmm. Pareil dans la rue, quand les gamins voient que tu as été, tu as peur, tu te méfies, tu as une attitude, tu es sur la défensive, ils t'attaquent. Et je voulais dire à nos auditeurs de France Inter, dans la rue, avenue 12, rue 19 à Abidjan, Côte d'Ivoire, capitale économique, j'ai été dans cette rue avec des Suisses en 1986. Ils ont été agressés. J'étais en 2001 dans la même rue avec Vladimir Cagnolari, ici présent. On n'a jamais eu aucun problème parce qu'il savait se comporter.
Parce qu'on connaît d'autres choses, c'est tout. Bon, on va aller faire un petit tour à Douala. Est-ce qu'on peut partir à Douala maintenant?
Oui, on peut.
Alors, on part à Douala. Et Douala, donc, pour vous le rappeler, c'est une ville portuaire qui est située dans le golfe de Guinée. Et c'est donc la capitale économique du Cameroun. Et près du marché central de Douala vivent, travaillent et dorment aussi des dizaines d'enfants des rues. Donc certains sont orphelins, mais la plupart ont fui la maison familiale. Et c'est le cas de Stéphane, justement, alias Charlie de son nom de rue. Il a 13 ans et ça fait 3 semaines qu'il a fugué. Et il a été récupéré par la chaîne des foyers Saint-Nicodème, qui est une association qui essaye de resocialiser les enfants des rues en leur offrant, entre autres, un hébergement. Alors nous sommes à Bépanda, c'est un des quartiers modestes de Douala, et Charlie, justement, 13 ans, attend devant le dortoir, anxieux, parce qu'il a accepté de retourner chez son papa. Et depuis qu'il est né, Charlie vit tout seul avec son papa, et puis après les choses se sont gâtées quand son père s'est remarié, et entre Charlie et cette nouvelle épouse, celle que vous allez entendre, on appelle Samara, très bien, ça se passe pas très bien, quoi. Et le papa, lui, un peu comme Zao tout à l'heure, pour d'autres raisons, lui sait plus trop quoi faire, il est dépassé, mais quand même, pour la énième fois, il est revenu chercher son fils.
C'est que lui, bon, il était devenu capucin à un moment donné, il ne supportait plus les... Quand on lui gronde ou bien quand on lui parle du roman, c'est là où il a commencé.
Et vous, là, en essayant de le faire rentrer en droit chemin, vous avez eu à le bastonner?
Non. On m'a même souvent reproché. On m'a dit que si la première fois qu'il avait fait la fugue, je l'avais bien bastonné, peut-être qu'il il ne devait pas continuer. Bon, moi, je voulais comprendre ses motivations. Et quand j'ai appris que c'est sa maman, le problème c'était qu'il voulait voir sa maman. Bon, c'était une motivation légitime, donc je n'ai pas voulu le brutaliser. Vous savez, c'est une situation un peu délicate. Bon, j'essaie de prendre un peu peut-être le côté de ma femme pour qu'elle ne dise pas que c'est peut-être parce que c'est mon enfant que... Donc, c'est un peu délicat. Bon, j'essaie
de... Vous étiez entre deux feux.
Voilà.
Il est vraiment l'homme à peu.
Vraiment, c'est une situation... Moi, je ne suis pas habitué à cette situation. Bon, j'ai essayé de gérer ça autant que je peux.
Et toi, Charlie, tu penses quoi? Tu vas rentrer à la maison, là?
Oui, va rentrer.
Maintenant, tu sais, hein, Charlie,
Tu sais que là où tu vas à la maison, c'est difficile. On va te faire des reproches. On va te dire de faire du travail. On va te dire de balayer la maison. Et quand tu n'auras pas bien balayé la maison, on va te faire des reproches que ce n'est pas bien balayé. On va te dire de laver la machine. Quand ce n'est pas propre, on te dit que ce n'est pas propre. Mais maintenant, tu choisis de rentrer à la maison. Comment est-ce que tu vas donc t'arranger pour essayer de créer un climat d'entente entre toi, ta marâtre et ton père? Comment tu vas faire?
Je vais bien faire mes travaux. Quand il y aura un problème, je vais expliquer à mon père.
Mais est-ce que tu as une personne à qui tu fais confiance dans la famille? Qui est ton ami, quoi, dans la famille? Tu as un ami dans la famille?
Non.
Quelle est donc la personne que tu aimes la plus dans votre famille, là?
Mon père.
C'est ton père. Mais est-ce que tu comprends que ton père doit avoir une femme qui ne soit pas ta maman qui t'a mis au monde?
Oui.
Là, maintenant, la décision est qu'il rentre à la maison. C'est la meilleure solution. Maintenant, est-ce qu'il va rester à la maison et accepter de vivre selon cette discipline familiale? Il n'y a pas une société sans discipline.
C'est Guillaume Biboum, un éducateur d'État camerounais, qui vient régulièrement rendre visite au foyer de Bepanda et à ses enfants. Et c'est un moment, justement, lui, qu'il suit Charlie.
Moi, j'ai déjà été confronté à ces situations où l'enfant dit « je vais rentrer dans ma famille ». Je dis « non, celui-ci ne peut pas ». On me dit « amène-le ». On prend l'enfant, on ramène dans sa famille. Dès qu'il arrive, la famille dit « ah, le bandit là, il est revenu » parce que déjà, ils l'ont catalogué. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui est cassé et qu'il faut remettre debout. Bon, comme il n'y a pas eu de préparation, les parents le voient là, ils ont peur de lui, ils se méfient de lui, ben alors que c'est leur enfant. C'est normal, c'est légitime. Hein? Avec toute la pauvreté que nous vivons, avec toutes les difficultés qu'on a, quand il faut encore être là, en train de réfléchir que d'une minute à l'autre, il va s'en aller, bon, où est-ce qu'il est? Il faut aller le chercher en ville. On préfère un peu se faire violence, hein, psychologiquement, et essayer d'oublier que cet enfant existe. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
Le père est prêt à mettre tout ce qu'il peut, n'est-ce pas, à ta disposition pour que tu puisses, n'est-ce pas, réussir dans ta vie. Hein, Charlie? Il faut comprendre cela. Il faut obéir, tout ça, ça va passer. Hein? Ok.
Tu vois, même ici au centre, tout le monde obéit. Lui, il doit obéir aux instructions que lui donne son patron. Il ne peut pas faire comme il veut. Moi, c'est la même chose. Dans chaque milieu, il a des devoirs qu'il doit remplir. Il y a des règles. Et c'est pour ton bien. Et quand tu vas avoir 22 ans, parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée dans la rue avec ces enfants-là, entre 10 ans et 18 ans, il n'y a personne qui veut faire quelque chose. Dès qu'ils sont à 19 ans, 20 ans, monsieur, je voudrais apprendre quelque chose. C'est là que chacun pense maintenant qu'il veut apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Je vais devenir mécanicien. Il va réparer les voitures, je vais faire ceci, cela. Est-ce qu'il a les capacités intellectuelles pour le faire? Point d'interrogation.
Et après la médiation des travailleurs sociaux, voici justement le papa qui se retrouve face au fiston.
Que tu saches, Stéphane, hein, que je suis ton père, hein, et que moi je t'aime bien, et mon souci c'est d'assurer un avenir, hein. Si je t'avais pas aimé, c'est que dès ta naissance j'aurais pu dire à ta maman que tu, c'est pas mon enfant, et t'es rejeté depuis cette date là mais je t'ai reconnu, donc depuis lors je m'occupe de toi, hein. Donc je aimerais que entre nous qu'il y ait un dialogue, hein. Quand tu as un problème, hein, tu viens me voir, hein, qu'on essaie de trouver une solution par rapport, que tu ne sois pas tout le temps en train de fuir. Ça fait 3 semaines, tu n'as pas dormi à la maison. Et tu crois que moi je dors comment? Mais tu es l'aîné d'une famille maintenant. Hein. Je voudrais que tu changes. Hein. Et mon souci, c'est que tu aies un avenir. Hein. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas plus fuguer. Promets-le. Hein. Tu ne vas plus fuguer. Promets que tu ne vas plus recommencer.
Chalhados no tempo da porrada, no culto também já cicatrizado, por culpa dos cotas que não dão nada. Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
São estas vidas na rua, preocupam nunca a fruta madura de olhar na terra que os viu nascer, esta terra que eles vão defender. Tem ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Longe do calor da banda, estou a vos entender. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Garotada, chanados no tempo da porrada, o puto também já cicatrizado, por culpa das cotas que não dão nada. Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
São essas vidas na rua, pra cutonoca, fruta madura, e olhar na terra que viu nascer, esta terra que eles vão defender. Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Calor da banda, estou a vos entender. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Tem pra ganhar vintém.
Candangue da lua não tem ninguém.
Gosse d'Abois là, les gosses de rue, c'est de l'angolais Bonga, il est sur France Inter. Et, en fait, moi je présente cette chanson comme un plaidoyer pour les enfants de la rue, parce qu'elle dit ceci, livrés à eux-mêmes, les gosses de la rue n'ont personne. À toute heure, ils sont battus. Ils exhibent leurs cicatrices pour accuser les hommes qui les ont maltraités. Ils déambulent de par leur rue, en observant, insouciants et sévères, la terre qui les a vus naître, cette terre qu'ils défendront. Et lui, Bonga, d'enchaîner, loin de la chaleur d'Angola, je vous entends. Il vaut mieux savoir pour agir que d'attendre en se lamentant.
L'Angola, donc, c'est en Afrique centrale et sur la façade atlantique du continent. Et non loin de là, il y a la République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa. Et à Kinshasa aussi, il y a de plus en plus d'enfants de la rue depuis une vingtaine d'années. On les appelle les Chégués, là-bas. Et depuis quelques années, ça c'est plus récent, bon nombre d'entre eux sont chassés de chez eux parce qu'on les accuse d'être sorciers. Ça, c'était quelque chose, je voulais en parler l'autre jour quand on a évoqué la sorcellerie. Mais c'est complètement relié aux histoires des enfants de la rue, puisque on accuse ces gamins qui se retrouvent à la rue d'être sorciers, c'est pour ça qu'ils sont chassés. Et il suffit pour ça qu'un des parents se sente anormalement malade, pour qu'il désigne un responsable. Et justement, c'est de plus en plus souvent un enfant, en tout cas à Kinshasa. Et donc le gamin finit à la rue, et beaucoup sont récupérés par les églises évangélistes, qu'ici on appellerait plus volontiers des sectes. Et là, souvent, ils font une confession publique édifiante, donc ils avouent eux-mêmes avoir été des sorciers, et ils racontent souvent des histoires qui se ressemblent, du genre, quelqu'un leur a donné à manger, et une fois que l'enfant a mangé, il rentre chez lui, et puis la nuit, l'homme
qui lui a donné à manger, vient le chercher dans son sommeil et lui dit « Tu as mangé ma nourriture pendant la journée, maintenant tu dois manger ma nourriture de la nuit. » Et donc il l'amène dans un cimetière pour le convier à un repas de sorcier où l'on mange des cadavres. Mmh. Et après ce repas macabre, et ben on le raccompagne à la maison. Là, c'est des choses qui paraissent complètement hallucinantes vous ici, mais ça fait partie de l'imaginaire collectif. On le raccompagne à la maison dans un avion qui est fait avec un petit panier sur lequel le fameux sorcier qui est donné à manger verse quelques gouttes d'un flacon. Et puis il dit, panier, soit léger, soit la viande de nos ancêtres. Et donc, dans cette confession, l'enfant raconte aussi souvent qu'il a l'impression d'avoir rêvé et que ses rêves sont devenus de plus en plus réguliers. Et puis, peu à peu, à force de faire ses réunions nocturnes avec d'autres sorciers, ses initiateurs, lui demanderaient de livrer un parent, un membre de la famille, pour le manger. Parce que quand on ensorcelle quelqu'un et qu'on le tue par sorcellerie, on dit manger très souvent. Et donc, ça peut être son père, sa mère, son oncle. Et du coup, ces récits qui sont faits a posteriori de l'accusation de sorcellerie par la famille, ils sont livrés par des gamins qui deviennent parfois persuadés de leur propre culpabilité, parce que toute la famille et toute la société finalement autour veulent y croire. Et voilà comment, à partir du moment où on les chasse, et ben ils reconstruisent un tel récit. Et c'est un récit qui est évidemment... sans doute très profitable pour ces nouvelles églises qui ont poussé comme des champignons dans pas mal de villes africaines, dont une des principales croisades, c'est justement le combat contre la sorcellerie.
Et, chers auditeurs, si cette histoire des enfants sorciers vous intéresse, ben vous pouvez la retrouver dans le livre Kinshasa, récit de la ville invisible, et c'est de Philippe Debouc. Les photos sont signées Marie-François Plissard et c'est aux éditions La Renaissance du Livre.
En tout cas, Solo, pour finir sur les Chègues et ces enfants de la rue à Kinshasa, c'est aussi une force redoutable parce que ils ont leur territoire avec son chef, hein, comme tu disais aussi tout à l'heure pour les ceux qui vivent dans la rue à Abidjan. Et on dit même qu'ils sont utilisés par les hommes de pouvoir comme service de renseignement, parce qu'effectivement, ils connaissent toute la ville, ils repèrent par exemple facilement les déplacements de tel ou tel ministre, de tel ou tel directeur de grande entreprise, éventuellement s'il va visiter son deuxième bureau. Et récemment, en contexte...
Deuxième bureau, c'est-à-dire la deuxième épouse.
Voilà, ou en tout cas, oui, ou sa maîtresse institutionnalisée. Mais récemment, là, puisqu'il y avait des élections encore la semaine dernière, le 30 juillet au Congo, on les utilise aussi pour grossir les rangs des manifestants, avec quelques
billets de banque.
Quelques billets de banque, voilà. Et donc, parmi ces Chègues, ces enfants de la rue, certains sont des anciens enfants soldats qui sont échoués à Kinshasa après toutes les guerres à répétition qu'a connu le pays depuis 10 ans. Et les enfants soldats, c'est vrai que c'est aussi un des phénomènes les plus durs qui s'est développé sur le continent ces 20 dernières années.
Oh, c'est incroyable ce que ça a gagné tous les pays où il y a eu des conflits. C'est comme une traînée de poudre. Et l'histoire de ces enfants soldats a inspiré un metteur en scène, un auteur, et qui a créé une pièce dont le titre est L'œil du cyclone, qui a été joué à Paris d'ailleurs au Tarmac l'été dernier. Et la pièce est écrite par Luis Marquez du Imako Théâtre et mise en scène par Vagba Obu. En fait, l'auteur s'est inspiré donc des guerres et du drame des enfants soldats qui déshonorent l'ensemble du continent. Et c'est l'histoire d'un enfant qui est enlevé par des tueurs, en fait des militaires, des soldats qui ont ravagé toute sa famille. Et il tue non seulement toute sa famille, et il enlève. Et ils en font une sorte de machine à tuer, un soldat. Et bien entendu, l'enfant, il n'a pas le choix, et il devient alors un soldat sans émotion, sans sentiment, et il ne connaît qu'une seule loi, la loi de la jungle. Et cette pièce donc met en présence cet enfant soldat qui a été arrêté et emprisonné par l'armée régulière et va être défendu par une avocate à qui tout les sépare. Et l'avocate va découvrir que cet enfant soldat, dans les échanges, cet enfant soldat était dans un camp que le père de l'avocate visitait régulièrement, et ces soldats lui fournissaient des diamants et des pierres précieuses qui étaient volés dans la région qu'ils occupaient. Voilà. Mais la pièce, malheureusement, ne se joue plus, sinon j'aurais recommandé à nos auditeurs d'aller la voir pour comprendre un peu toutes les implications qu'on peut retrouver dans ces histoires.
En tout cas, on estime qu'il y a 300 000 enfants dans le monde qui seraient contraints de participer à des conflits armés, dont une bonne partie en Afrique. Et la difficulté, c'est que même dans les pays où la guerre est terminée, c'est aussi de les réinsérer, ces enfants-là, d'abord dans leur famille quand elle existe encore,
Et puis, tout simplement, après, dans la société, c'est-à-dire trouver un travail, retrouver une vie à peu près normale. Et c'est vrai que retrouver un travail, quand autrefois on pouvait tout obtenir par le pillage qui était encouragé, hein, par les chefs qui les avaient souvent enrôlés de force. Et du coup, c'est ainsi que, par exemple, au Libéria, les enfants soldats démobilisés, ne trouvant pas de boulot, restant plus ou moins livrés à eux-mêmes et à la rue, ont fini par se réengager dans d'autres conflits voisins, genre chez toi en Côte d'Ivoire. Or, l'enfant soldat, ça s'est développé depuis 20 ans, mais c'est vraiment tout contraire des valeurs traditionnelles qui sont attachées à l'enfant.
Ah ouais, c'est incroyablement opposé aux valeurs traditionnelles, parce que traditionnellement, l'enfant n'est ni un sujet, ni un enfant roi, comme ici d'ailleurs. Parce qu'ici, il suffit qu'un enfant tous, il y a quatre personnes qui bondissent pour lui trouver un mouchoir. Oh, mon chéri, bébé, mon poussin. Enfin bref.
Poursuivez l'explication.
Voilà. Et jamais dans les sociétés traditionnelles, où il y avait des guerres aussi, hein, c'est pas dire que dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas de conflit. Mais jamais il ne viendra à l'esprit de qui que ce soit de mettre un enfant au front. C'est pas possible, c'est inimaginable. Et que ce soit des conflits de villages voisins ou de tribus voisines, jamais, 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 alors là, jamais, au grand jamais, on ne mettrait des enfants au front. Et dans les guerres ethniques, c'est seulement les adultes qui faisaient la guerre et pas les enfants. Nima Fele de Sekouba Bambino, il est de Guinée, il est sur France Inter. Le Guinéen interpelle ses concitoyens en disant « Regardez le drame que vit notre monde. Un enfant en pleurs, assis là, seul. Où sont donc passés sa mère et son père? Ils sont emportés par la guerre. Cette guerre ne se nourrit pas de gazon, elle se nourrit d'humains. Elle se nourrit d'enfants. Regardez ce qui arrive dans tous les pays en guerre, et ici, la Somalie, le Libéria, le Congo, etc. peuples d'Afrique. Arrêtez la guerre, elle n'est que désolation.
En tout cas, dans la situation difficile que vivent pas mal de parents, malgré tout ce qu'on a dit, les enfants restent leur principal rêve, leur principal espoir. Et c'est justement le sens de Ngamou Lelo, c'est cette chanson comorienne qu'on va entendre. Donc on va se transporter au bord de l'océan Indien, puisque c'est là, à l'est de l'Afrique, que sont posées les îles Comores. Et aux Comores, les femmes ont une voix magnifique, plus claire que le ciel. Et elles chantent souvent des berceuses pour leurs enfants. Celle-ci, justement, elle a été composée par une maman pour son fils unique.
Mon enfant, sois le filet qui me sauve de l'eau, soit la ligne qui me ramène sur la grève. On le dira jamais assez, mon enfant, sois le filet qui me sauve de l'eau. Ngamou Lelo, de Zeinaba, des Comores, elle est sur France Inter.
Solo, je crois qu'il va falloir qu'on demande la route parce qu'il nous reste très peu de secondes.
Mais je voudrais dire quelque chose. Vas-y. On peut parler de pessimisme, mais malgré toutes ces adversités que nous avons évoquées concernant l'enfant, les enfants du monde entier restent les plus inventifs, les plus créatifs. On a parlé de l'art et de la langue, de la rue et aussi de partout.
Bon, merci à tous nos grands-enfants qui étaient avec nous. Koy Nguyen à la réalisation, Ludovic Asselot, Antoine Bios à la technique et la nièce Hortense Vol. À demain.
Il est 15h sur France Inter. Les informations, Céline Asselot.
Une initiative majeure. La France soutient le projet libanais. Le gouvernement du Liban tente de trouver une solution à la crise et il a proposé le déploiement de 15 000 de ses soldats au Liban Sud. Et ce, dès que les troupes israéliennes en seront parties. Une initiative destinée à assurer Israël que tout sera fait pour sécuriser la zone et éviter qu'elle continue de servir de base au Hezbollah. Israël juge la proposition intéressante, mais dans le même temps, son armée prévoit une intensification de ses offensives au Liban Sud. Les habitants s'attendent donc à de nouvelles violences comme à Tyr, où se trouve notre envoyé spécial Christophe Leury.
Tir est coupé du reste du Liban. La route vers le nord est impraticable depuis plus de 24 heures. Un pont provisoire sur le fleuve Litani a été détruit. Sur la carte géographique, le trait bleu qui figure cette rivière serpente entre 5 et 30 km